affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Alors que la France entre dans sa 8e semaine de confinement, nous pouvons mesurer combien cette crise a bouleversé notre vie, brisé des routines, suscité de nouveaux modes d'organisation, de nouveaux usages individuels et collectifs. Bien sûr, le monde de l'enseignement n'y échappe pas. Ainsi, à l'heure où nous enregistrons, il pèse encore un certain suspense sur la réouverture des collèges et des lycées, mais en revanche, une chose est sûre, les épreuves du baccalauréat 2020 n'auront pas lieu, si bien que cette année, le diplôme sera attribué ou non, selon le livret scolaire, autrement dit en contrôle continu, en s'appuyant sur les notes attribuées au cours de l'année. Parmi les élèves, certains se sont attristés de cette annulation, tandis que d'autres s'en sont félicités. C'était bien sûr fonction des notes obtenues lors des deux premiers trimestres. De la sorte, le bac 2020 radicalise la réforme du baccalauréat, mise en œuvre par l'actuel ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui, comme on le sait, donnait déjà une place plus importante au contrôle continu. Si bien que certains avancent l'idée que le mode d'attribution du baccalauréat 2020 devrait être conservé les années suivantes et que la crise sanitaire actuelle serait l'occasion d'en finir avec l'ancien baccalauréat. Pour sa part, notre invité de cette semaine n'était pas personnellement concerné par l'annulation des épreuves du bac, car il l'a obtenu en 1966 dans la section de philosophie. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir un avis étayé sur la question, car il a voué sa vie à l'enseignement et à la transmission. Nous avons en effet le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Robert Pitte, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, qui plaide depuis des années pour l'abandon de l'ancien baccalauréat, thème auquel il a même consacré en 2007 un livre titré sans ambiguïté « Stop à l'arnaque du bac ». Monsieur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes agrégé de géographie, ancien président de l'Université Paris-Sorbonne, et que de 2010 à 2014, vous avez été délégué à l'information et à l'orientation auprès du Premier ministre. Je précise aussi que vous êtes également féru de gastronomie et que vous avez été président d'honneur de Ferrières, l'école de l'excellence à la française, spécialisée dans la gastronomie et l'hôtellerie. Je précise cela parce que cela illustre la haute idée que vous faites de l'apprentissage et de l'alternance. Monsieur, donc bonjour d'avoir accepté d'être notre compagnon de confinement.
Bonjour et merci de cet entretien.
Revenons d'abord un petit peu en arrière, si vous le voulez bien. Vous souvenez-vous du jour où vous avez obtenu votre baccalauréat ? Est-ce un bon souvenir ?
Oui, c'est un bon souvenir parce que je l'ai obtenu du premier coup. Il était sans doute un peu plus difficile en 1966. Je l'ai eu de justesse, je dois dire, parce que j'étais extrêmement jeune. Quel âge ? 66, donc j'avais 17 ans et voilà, ça avait été un peu difficile pour moi. Cela dit, ce n'est pas du tout un mauvais souvenir et je ne regrette pas ces années de lycée et en particulier l'année de terminale où j'ai appris beaucoup de choses qui devaient être sans doute un peu difficile pour mon âge, mais j'ai le souvenir d'avoir une très bonne note en philosophie qui m'a permis d'avoir le bac. D'ailleurs, j'ai encore le souvenir d'avoir eu 14 à l'écrit, et ce qui n'était pas si mal que ça, et donc c'est ce qui m'a permis d'obtenir la moyenne. Voilà. En tout cas, c'est évidemment un bon souvenir quand on l'obtient, mais à l'époque, il y avait quand même un taux d'échec beaucoup plus important, et un certain nombre de mes camarades, même si j'étais dans un bon établissement, ne l'ont pas obtenu la première année.
En tout cas, c'est un rituel qui vous plaisait néanmoins.
Je dois dire que ça me plaisait. Il avait beaucoup plus d'importance que maintenant, ne serait-ce que parce que beaucoup de Français ne l'avaient pas. Par exemple, j'appartiens à une famille où mes parents n'avaient pas fait d'études pour diverses raisons. Mon père avait été 4 ans à l'école primaire et ma mère 6 ans, et comme elle a perdu son père à la Première Guerre mondiale, donc elle est rentrée très très vite dans la vie active. Donc mes deux frères aînés n'avaient pas passé le baccalauréat, donc j'étais le premier de ma famille à passer cet examen. Donc, ça, il y avait une certaine fierté, à la fois de ma part, mais aussi de tout mon entourage. Donc, oui, je dois dire que c'était plutôt un bon souvenir et que une certaine fierté.
De quand date vos réticences sur cette épreuve ?
Alors, bon, ensuite, moi, je ne suis pas rentré en classe préparatoire. D'ailleurs, je n'avais pas le niveau pour rentrer en classe préparatoire. Je ne savais même pas très bien de quoi il s'agissait. Donc, je suis rentré à l'université. J'avais plus ou moins l'envie de travailler dans le tourisme. J'avais une vocation rentrée de cuisinier, bon, dont on m'a découragé. Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas un métier très, très glorieux. Donc, je m'orientais plutôt vers le tourisme, et donc un peu au hasard, comme le font beaucoup d'étudiants encore aujourd'hui, hein, et de bacheliers aujourd'hui, j'ai choisi la géographie en me disant « bon, ben, ça ne peut pas faire de mal pour travailler dans le tourisme ». Après, c'était quand même le grand développement des voyages aériens, du tourisme en France et à l'étranger. Et donc, il y avait un certain nombre de débouchés. J'avais regardé un peu les il n'y avait pas de site internet à l'époque, mais les brochures qui existaient sur les métiers du tourisme. C'est quelque chose qui m'intéressait parce que ça permettait de voyager. Et donc mais ce n'était pas une idée extrêmement précise. Je dois dire que je n'avais pas été réellement aidé dans mon orientation. Donc, je suis rentré à l'université en géographie en septembre 66. J'ai fait de l'histoire aussi. Ça m'a beaucoup intéressé parce que la manière d'enseigner l'histoire et la géographie à l'université était très différente de celle du lycée. Donc, j'ai découvert deux disciplines dont j'ignorais pratiquement tout jusqu'à mon bac. Et j'y ai pris beaucoup d'intérêt. Et est arrivée la deuxième année, donc j'étais au printemps de 68, j'étais en deuxième année d'université. Je dois dire que je ne travaillais pas énormément, mais enfin correctement, j'étais passé de première en deuxième année sans problème, et est arrivé mai 68. Et là, moi qui étais un peu porteur des espoirs de promotion sociale de ma famille, qui était fier aussi que je sois à l'université, la Sorbonne avait un vrai prestige, encore maintenant d'ailleurs, le nom reste magique, mais la Sorbonne, à l'époque, les gens baissaient la voix en prononçant le nom Sorbonne. Donc, voir un certain nombre de mes camarades en 68, qui étaient pour la plupart d'entre eux de familles plus bourgeoises que moi, casser leurs jouets, parce que je considère que la pseudo-révolution de 1968, ce sont des enfants gâtés qui cassent leurs jouets, pour diverses raisons, hein, je ne les accuse pas, la société n'avait pas très bien vu venir les choses, c'était encore, en fait c'est le premier déconfinement d'après-guerre, parce que les Français ont énormément travaillé dans les années 50 et début des années 60, et puis d'un seul coup, bon, toutes les sangles de la société explosent au cours d'une sorte de crise de nerfs. Là, j'ai compris, et alors le bac a été bradé, évidemment, en 68, il a été complètement... Moi-même, j'ai passé l'examen de fin de deuxième année qu'on appelait le DEUL à l'époque, qui est devenu le DEUG. Donc la deuxième année de licence, je l'ai passé en septembre et uniquement à l'oral, donc c'était vraiment bâclé, et j'ai eu cet examen dans une pochette surprise, mais comme tout le monde, hein. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis opposé un peu à ce mouvement de 68, même beaucoup. J'ai fait partie des étudiants qui se sont mobilisés. Alors lorsqu'il y a eu les élections étudiantes après la loi Edgar Faure, donc en 69, donc j'ai fait partie des étudiants qui se sont présentés à ces élections, mais dans un esprit très anti-68art. Et je l'assume complètement parce que je considère que c'est un mouvement qui, je ne dis pas qu'il n'avait ni queue ni tête, mais qui profondément démagogique, et en ce qui concerne la vie intellectuelle et la vie universitaire, jetant tout un héritage d'exigences intellectuelles par-dessus les moulins que l'université continue à payer très 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 cher. Toutes les autres formations d'enseignement supérieur s'en sont plutôt bien remises. Il y a les grandes écoles, il y a les classes préparatoires, il y a des formations qui sont rattachées aux universités comme les IUT ou rattachées au lycée comme les BTS, qui continuent à être des formations rigoureuses et procurant des emplois aux étudiants à la sortie. Mais l'université en particulier dans le domaine qui est le mien et qui est rattaché aux lettres en France, aux lettres et aux sciences humaines, je pense qu'on ne s'est pas remis de 68 et que ça va de mal en pis depuis cette époque.
Et pour revenir au baccalauréat, lui-même aurait été donc victime du vaste mouvement lancé par mai 68.
Oui, alors le baccalauréat, rappelez-vous, donc, est arrivé ensuite, donc en 1981, la gauche arrive au pouvoir. Chevènement a été ministre de l'Éducation nationale et il a eu cette phrase tout à fait intéressante, mais malheureusement tronquée dans la façon dont on l'a diffusée, dont on s'en glorifie aujourd'hui, mener 80% d'une classe d'âge au bac. Or, il n'a jamais dit ça. Jean-Pierre Chevènement, qui est quelqu'un qui est un homme d'État et qui a le sens de l'exigence de la République, de la méritocratie, a dit il faut amener 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Et c'est très différent, parce que ça a été compris comme le fait qu'il fallait donner le bac à tout le monde. Et on est actuellement, alors selon les sections, mais dans la section générale et en particulier littéraire, on est à 90% et parfois un peu plus. Et cette année, ça risque, parce que on va reparler bien entendu des modalités de 2020 pour le baccalauréat, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Pratiquement tous les lycéens auront le baccalauréat cette année. Donc c'est après qu'il faut réfléchir. En tout cas, donc, le résultat, c'est que depuis 1968, donc depuis 50 ans, le niveau du baccalauréat incontestablement baisse. Et je dis cela non pas en disant c'était mieux avant, mais parce que j'ai été professeur d'université pendant toute ma carrière, donc de 1972 pratiquement, enfin j'étais à l'étranger à l'époque, mais de 74 à la Sorbonne jusqu'à 2014 ma retraite, et que j'ai corrigé des milliers et des milliers de copies de première année, de deuxième année, qui est un exercice accablant. Vraiment accablant quand on se dit mais comment ont-ils fait pour avoir le baccalauréat? Alors pas tous, il y a d'excellents étudiants, mais dans les formations littéraires, il y a énormément, énormément d'étudiants qui ne devraient pas être là et qui y sont un peu par hasard parce qu'ils ont eu le baccalauréat. Ils ont eu le droit de s'inscrire, ils ont fait un choix à peu près comme le mien à l'époque, hein, en 66, c'est-à-dire pas très très motivé, ou parfois motivé sur des rêves complètement absurdes, hein, dans des disciplines comme la sociologie, la psychologie, les sciences de l'éducation, les sciences de les STAPS, sciences et techniques de l'éducation physique. On a des étudiants qui, ils aiment le sport, donc ils vont faire une licence de STAPS. Ils ont des problèmes psychologiques, ce qui est normal à cet âge-là, donc ils vont faire des études de psycho parce que ça va les aider à s'en sortir. Mais ça n'aboutit à rien à la sortie. Et le taux d'échec en première année et dans le premier cycle en général est absolument catastrophique. Et un échec... Alors, certains étudiants qui échouent parce qu'ils ont fait une erreur d'orientation se reconvertissent parfois et trouvent leur bonne voie. Heureusement, il y en a. Mais beaucoup, beaucoup sont aigris et ne poursuivent pas d'études. Donc ce sont des gens qui occupent, même s'ils ont le baccalauréat, des positions dans la société un peu déclassées, et ils estiment ça totalement immérité. Donc on fabrique une génération, des générations d'aigris, et certains ne s'en remettent pas de toute leur vie. Heureusement, certains rebondissent, mais beaucoup ne s'en remettent pas.
Alors, du coup, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que alors que le bac était autrefois l'instrument d'une sélection, il est aujourd'hui essentiellement défendu par ceux qui, semble-t-il, refusent la sélection. Une autre solution ne devrait-elle pas alors consister à revaloriser le bac en n'attribuant plus qu'à ceux qui le méritent effectivement ?
Oui, alors, c'est une bonne question, merci. Mais ce problème de la sélection, c'est une véritable vache sacrée en France, comme le bac. Hein. C'est un mot tabou. Déjà en 68, hein, sélection était un des axes de la lutte des étudiants 68 heures, c'était contre la sélection. Donc il fallait pas d'examen, donner les diplômes à tout le monde, dans une espèce de vision complètement utopique de l'égalité. En France, on a le mot égalité dans notre devise nationale, mais on confond beaucoup égalité et égalité des chances. Dans la devise nationale, ce que veut dire égalité, c'est l'égalité des chances. Donc que chacun, quelle que soit sa naissance, soit aidé et en capacité d'accéder à des études supérieures et à des postes de responsabilité, sans que la naissance ne joue un rôle majeur. Donc ça, c'est ça l'égalité. Mais aujourd'hui, on ne veut plus de cela. Et dans le domaine économique, c'est pareil. Si vous lisez Piketty, qui a quand même un certain succès en France et à l'étranger, lui, c'est un chantre de l'égalité dans tous les domaines. Alors, on sait ce que ça a donné dans certains pays qui l'ont appliqué de cette manière-là. Je pense au bloc des pays de l'Est, à l'Union soviétique, ou à la Chine de Mao, ou à la Corée du Nord d'aujourd'hui. Donc l'égalité parfaite est un leurre absolu, extrêmement dangereux, et aboutit à des catastrophes sur le plan politique, sur le plan de la démocratie, etc. Donc, aujourd'hui, donner le bac à tout le monde, c'est une forme d'égalité, si on veut, mais c'est un leurre absolu et ça ne crée que des désagréments pour ceux qui obtiennent le baccalauréat de cette façon-là. Et ceux qui ont évidemment le niveau du baccalauréat et même le niveau des mentions bien, très bien, ceux-là, à la limite, n'ont pas besoin de la peau d'âne, parce que leur avenir est déjà, après le baccalauréat, est déjà tracé. Ils ont déjà des réponses positives pour aller dans les classes préparatoires, pour aller dans des formations sélectives, dans des écoles d'ingénieurs ou de commerce post-bac. Donc, ils n'ont pas besoin. Ils en ont théoriquement besoin sur le plan administratif, mais dans la réalité des faits, ils n'ont pas besoin de cette peau d'âne. Donc, le problème, c'est là encore, et pardon de parler du secteur que je connais le mieux, c'est-à-dire c'est les sciences humaines, mais ça représente quand même un demi-million d'étudiants. La majorité des étudiants et la majorité des enseignants, surtout, c'est ça qui est plus grave, ne veut pas de sélection. Considère que c'est une injustice flagrante. Et ça, ces universités, ces secteurs de l'enseignement supérieur le payent très cher. Parce que, évidemment, dans les sphères de l'État, on est bien au courant de ces impasses. Et donc, ce secteur de l'enseignement supérieur bénéficie de moins de crédits. Tout le monde sait, c'est un secret de Polichinelle, que les débouchés sont minces. Et surtout, que les établissements, les universités en l'occurrence, refusent de faire des enquêtes sur l'insertion professionnelle, refusent de s'intéresser à l'insertion professionnelle de leurs étudiants. Alors, il y a des exceptions, heureusement. Il y a des licences professionnelles, il y a des masters professionnels rattachés à des universités de lettres et sciences humaines, mais beaucoup moins que dans les universités scientifiques, beaucoup moins que dans les universités juridiques ou dans les facultés de droit. Dans beaucoup de facultés de droit, la sélection a encore du sens. On la pratique de manière intelligente. On va peut-être y revenir sur cette question de la sélection orientation.
Oui, parce que ce que je comprends maintenant, c'est que la suppression du bac, ce n'est pas seulement une mesure symbolique, elle implique finalement de revoir l'ensemble du système éducatif. Parce qu'en quelque sorte, le bac, c'était la pierre angulaire. Si on l'enlève, ça oblige à reconstruire autre chose.
Le bac est la pierre angulaire. Bon, Napoléon, il a été créé par Napoléon, mais à l'époque, il y avait 0,1% des Français qui le passaient. Et donc aujourd'hui, tout le monde le passe et tout le monde l'a. Mais en réalité, si on veut le réformer, ça va être fait cette année par les hasards des circonstances. Vous avez rappelé tout à l'heure que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avait déjà commencé à insuffler du contrôle continu dans le baccalauréat, mais avec beaucoup de réticence de la part des syndicats d'enseignants et des syndicats de conseillers d'orientation du secondaire et certaines fédérations de parents d'élèves aussi. Donc, le baccalauréat classique en examen final continue à, dans l'esprit de beaucoup de Français, on va voir comment ça se passe cette année, on verra à l'automne et l'année prochaine la réaction des Français, mais continue à avoir être une sorte de garantie et avoir un certain prestige qui ne correspond pas à la réalité. Mais si on veut supprimer le baccalauréat tel qu'il existe traditionnellement depuis Napoléon, avec ses épreuves écrites et ses épreuves orales, en examen final, si on veut le supprimer, il faut évidemment mettre quelque chose à la place. Et ce quelque chose, c'est vraiment, c'est un mot qui, puisque si on prononce le mot orientation, sélection, encore une fois, ça fait peur à tout le monde, à beaucoup de gens. Donc, même si elle existe, et tout le monde le sait aussi, hein, ça c'est vraiment aussi une attitude française d'autruche qui consiste à se mettre la tête dans le sable, on ne veut pas de sélection. Mais tout le monde sait très bien qu'elle existe. Et elle existe, si elle n'existe pas au début, elle existe à la fin, au moment de l'entrée dans la vie active. Donc, il faut remplacer cette une sélection qui pourrait apparaître comme brutale par une orientation sélection, c'est-à-dire que il faut que l'ensemble des jeunes Français, et il faut commencer très tôt au collège, voire dans le primaire, il faut inciter les jeunes à réfléchir à leur avenir. Trop de jeunes considèrent qu'ils font des études pour faire plaisir à leurs parents, parce que c'est comme ça, parce qu'on fait des études, parce qu'on doit apprendre, on doit aller à l'école, on doit aller au lycée. Je crois qu'il faut davantage essayer de convaincre les jeunes que les études, ça sert à quelque chose, que ça sert principalement à trouver sa place dans la société lorsqu'on arrive à l'âge adulte. Et sa place dans la société, ça passe en particulier par l'emploi. Évidemment que ça passe aussi par le sens des responsabilités, une culture générale qui permet dans beaucoup de domaines de la vie sociale d'être autonome et responsable, mais ça passe évidemment par l'emploi. Or, l'emploi, il ne tombe pas tout seul. Ça se prépare, une insertion dans une entreprise ou dans une administration. L'emploi, c'est fondamental et ça se prépare par une réflexion approfondie qui ne met pas les gens dans, parce que c'est un argument qu'on m'a souvent opposé quand j'ai essayé de développer ces idées, qui ne met pas les gens dans des couloirs sans aucune possibilité d'en sortir. Je pense qu'on peut, on a le droit, et c'est normal, qu'on change de projet tout au long de sa jeunesse et même tout au long de sa vie. Aujourd'hui, chacun sait qu'on ne fera pas le même métier à la fin de sa carrière, en sortant de ses études, et à la fin, au moment de sa retraite. Et il est très probable que beaucoup de Français changeront 3-4 fois de métier au cours de leur vie. Et c'est les jeunes en particulier. C'est fini le temps où on entrait dans une entreprise, comme dans beaucoup de pays, hein. Je pense en particulier au Japon, à l'Allemagne, on entrait à 20 ans dans une entreprise, on en sortait au moment de la retraite. Ça, c'est largement périmé, et de plus en plus, on sera obligé de changer d'entreprise, de changer d'employeur, de changer de métier, et donc d'apprendre de nouveaux métiers. Et donc les études, ça sert aussi à avoir les idées assez larges et la tête assez bien faite pour pouvoir apprendre de nouvelles connaissances. C'est-à-dire apprendre les langues, regarder l'informatique. Par exemple, l'informatique, quand j'étais étudiant, on ne savait même pas ce que c'était. On était encore à l'époque des cartes perforées IBM avec des aiguilles à tricoter. C'était les balbutiements de l'informatique. Mais on ne savait pas du tout ce que c'était. Bon, tout le monde a appris l'informatique, plus ou moins bien. Mais aujourd'hui, c'est un instrument de travail fabuleux.
Alors justement, est-ce que cette nouvelle physionomie des carrières et de la vie professionnelle ne plaide pas pour une formation la plus généraliste possible ?
Il faut les deux. On entend aussi. Non, mais il faut les deux. Il est évident que vous avez parlé du rôle que j'ai joué au moment de la création de l'école Ferrière, qui est une école vouée à la gastronomie, à l'hôtellerie et au luxe, qui se trouve en banlieue parisienne. Et j'ai donné un certain nombre de conférences aux étudiants au tout début de la création de cette école. Je leur disais, pour des gens qui vont être sommeliers, qui vont être concierges dans les grands hôtels, directeurs d'hôtels après un peu d'expérience, cuisiniers pour certains, je leur disais, vous savez, vos métiers, qui sont des métiers formidables, pour lesquels il faut travailler beaucoup, mais qui sont des métiers vraiment passionnants et formidables, vous ne les exercerez longtemps et avec beaucoup de plaisir que si vous avez de la culture générale à côté. Donc, je leur disais, lisez, allez au cinéma, allez au théâtre, allez au concert. Ça ne va pas vous servir directement dans votre métier de cuisinier ou de sommelier, mais vous verrez comme ça va vous développer votre imagination et vous permettre vous-même de faire évoluer votre profession et votre relation au travail, relation à la clientèle, etc. Donc, évidemment qu'il faut une culture générale. C'est pour ça que je suis très favorable à ce qu'on maintienne l'enseignement de la philosophie en terminale. C'est un peu une originalité française, mais c'est très important que les jeunes qui n'ont pas toujours l'occasion, en écoutant les médias, d'avoir une réflexion un peu approfondie sur leur vie, d'où viennent-ils, que font-ils, que fait-on de sa vie, où va-t-on. La philosophie, lorsqu'elle est bien enseignée, aide beaucoup à être plus responsable et plus autonome dans sa façon d'être, dans sa façon d'être au monde, dans sa façon de vivre. Donc ça, c'est très important. La littérature ne sert à rien dans la plupart des métiers, mais elle est évidemment indispensable. Et pas seulement dans les métiers liés à l'écriture, dans le journalisme, ou des métiers de créativité culturelle. Dans tous les métiers, il est indispensable d'avoir une formation littéraire. Et les Français ne lisent pas assez. Nos contemporains, en général, ne lisent pas assez. C'est un des problèmes. Il n'a jamais été plus facile d'accéder à des grands textes, et en particulier maintenant avec Internet, et pourtant, les gens lisent peu. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est la culture générale. Je pense aussi, il se trouve que moi, ce n'était pas du tout mon fort, mais qu'une culture, un minimum de culture mathématique est indispensable, et une culture scientifique. Parce qu'on voit dans un certain nombre de domaines, on ne va pas avoir le temps d'en parler, mais la pensée magique, avoir le vent en poupe dans beaucoup de sujets, bon, on peut le dire, autour des questions touchant à l'environnement, par exemple, on est beaucoup plus dans la pensée magique que dans la pensée scientifique. Et je trouve ça très, très, très dommage. Quand on évoque les problèmes énergétiques, beaucoup de gens, y compris des gens qui ont un certain poids dans la société, disent des choses qui ne relèvent pas du tout d'une analyse scientifique objective, dans le domaine de la démographie, etc. Donc la culture scientifique est indispensable. C'est la culture à la fois littéraire, sciences humaines et scientifiques est indispensable. Mais, par ailleurs, il faut avoir une culture beaucoup plus approfondie dans le domaine technique. Apprendre un métier, ça me paraît indispensable, et les études, ça sert à ça.
Écoutez, alors, vous avez d'ores et déjà répondu à la question que je voulais vous poser, parce qu'un des arguments opposés, c'est de dire, ah oui, mais alors cette école où il y a une orientation sélection, avec plus d'apprentissage, plus de travail en alternance, en fait, on va la livrer au monde de l'entreprise, et l'école ne servira plus à former des honnêtes hommes ou des citoyens, mais simplement des salariés, au gré des besoins de ces entreprises. Que répondez-vous à cette objection?
Oui, non, mais
mais très présente.
Non, je connais bien cet argument, qui est en fait un argument complètement anachronique, parce que à l'époque où le baccalauréat était plutôt un diplôme rare et qui avait une véritable valeur, effectivement, c'est une espèce de sésame qui permettait d'entrer partout. Avec le bac, on pouvait faire une grande carrière dans n'importe quoi. Mais je dirais que si je compare avec un pays voisin, alors, qui n'a pas de vrai baccalauréat, l'Angleterre, mais qui a des établissements d'enseignement supérieur très, très, très hiérarchisés. Lorsque vous sortez de Cambridge ou d'Oxford, par exemple, qui sont deux grandes universités célèbres dans le monde entier, quelles que soient les études que vous avez faites, vous avez fait du latin, vous avez fait de la géométrie, vous avez fait de la biologie, vous avez fait de la physique nucléaire, vous avez fait de la littérature du Moyen-Âge, quel que soit le diplôme que vous obteniez, vous entrez dans la vie active à un haut niveau dans la société, parce que vous sortez de Cambridge et d'Oxford, parce que vous avez été très sélectionné pour y entrer, et que n'importe quel employeur, qu'il soit public ou privé, sait à peu près ce que vous valez sur le plan intellectuel. Et donc, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous sortez de l'école normale supérieure, normalement, vous avez été formé pour être professeur, mais compte tenu de ce qui est devenu le métier de professeur, soit dans le secondaire, soit même dans le premier cycle de l'enseignement supérieur, beaucoup de normaliens ne veulent plus entrer dans l'enseignement. Donc, ils passent un autre concours qu'ils ont très facilement, l'ENA, HEC, l'ESSEC, etc., ou une école d'ingénieurs prestigieuse, et hop, ils bifurquent et ils vont pantoufler dans l'entreprise, ou dans la haute fonction publique, où ils passent aux affaires étrangères, etc. Mais parce qu'ils sortent d'un établissement qui est, où le diplôme est rare, il y a peu de normaliens chaque année, ils sont très, très bien formés avant, dès le lycée et les classes préparatoires, et très bien formés pendant. leurs études à l'école normale supérieure. Le baccalauréat n'est plus ça du tout. C'était le cas il y a 70 ans ou 80 ans. Ne parlons même pas du 19e siècle. Mais ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Donc le baccalauréat n'est en aucune manière une garantie de véritable niveau et en aucune manière une garantie de réussir dans la vie. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Et c'est pourquoi on n'a pas eu le temps d'en parler. Je crois que le contrôle continu, s'il est bien fait, très sérieusement, est une excellente chose, mais il est essentiel que l'évaluation des jeunes soit accompagnée donc d'une réflexion, d'une incitation à les faire réfléchir, ces jeunes, à leur orientation et à leur avenir, et surtout que l'évaluation soit largement qualitative. On ne peut pas se contenter de dire « il vaut 8 sur 20, il vaut 12 sur 20, il vaut 15 sur 20 ». Et surtout pour les notes qui sont comprises entre 8 et 12, on sait très bien que, je ne dis pas que c'est à la tête du client, mais beaucoup d'enseignants, pour ne pas se faire d'ennemis, par un peu de démagogie, il faut bien reconnaître, donnent une note moyenne aux étudiants, tout en sachant au fond d'eux-mêmes qu'ils ne méritent pas du tout la moyenne. Donc, ce qui permettrait d'éviter cette espèce de loterie des notes du contrôle continu si elles ne sont pas attribuées avec beaucoup, beaucoup de sérieux, c'est une évaluation qualitative. Et c'est là où je trouve que la suppression du baccalauréat...
Est-ce que vous pouvez développer ce dont il s'agit ?
Oui, la suppression du baccalauréat en contrôle final et en examen final anonyme, etc., en dehors de l'établissement où on a, du lycée où on a fait ses études, n'a d'intérêt que si elle est remplacée par un livret scolaire bien plus approfondi, bien plus qualitatif qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça veut dire sans doute plus de travail de la part des équipes pédagogiques, des établissements, hein, des enseignants, mais aussi de l'encadrement du lycée. Deuxième condition, il faut que ça s'accompagne absolument d'une réflexion sur l'orientation futur de ces jeunes, et il faut les aider. Vous savez que maintenant, pour rentrer dans l'enseignement supérieur, il ne faut pas seulement le baccalauréat, mais il faut passer par un système qui s'appelle Parcoursup, qui est un système qui a 2 ans maintenant, qui marche de mieux en mieux, et qui oblige donc les lycéens à formuler un certain nombre de souhaits, de candidatures pour entrer dans l'enseignement supérieur. Évidemment, ça s'accompagne du livret scolaire et ça s'accompagne d'une lettre de motivation. Je pense que la lettre de motivation, ce n'est pas quelque chose de facile à faire et ça demande une longue réflexion. À mon avis, la fabrication de cette lettre de motivation doit s'étaler sur au moins tout le lycée, seconde, première, terminale. Mais il faut commencer à parler d'orientation dès le collège. J'avais fait des expériences quand j'étais délégué à l'information et à l'orientation, il y a des collèges dans lesquels on s'intéresse énormément à ça, où on fait venir des représentants des professions, on explique aux élèves en quoi consiste tel ou tel métier, et ça les passionne en général, et je pense qu'on peut commencer même un peu dès le primaire. Moi, je suis très favorable à la fameuse semaine de la classe de 3e, même si malheureusement, il y a des inégalités, parce qu'il y a des jeunes de milieux défavorisés qui ont beaucoup de mal à trouver une entreprise qui les accepte ou une administration qui les accepte pour une semaine. Donc ça, malheureusement, ils n'apprennent pas grand-chose dans ce cas-là. Mais pour beaucoup d'autres, c'est très, très, très formateur quand c'est bien fait. Et lorsque l'entreprise ou l'administration prend très au sérieux l'accueil de l'élève. Donc ça rentre dans cette idée qu'il faut réfléchir à son avenir. Et puis, il y a une troisième condition, il y en a même deux autres. Hein. La troisième condition, il faut que les établissements d'enseignement supérieur prennent très au sérieux cette entrée des jeunes sortant de terminale dans leur maison, dans leur établissement, et donc qu'ils ne prennent que des gens dont ils subodorent qu'ils vont réussir. Bon, on ne peut jamais être certain, mais dont on voit qu'ils ont... ils ont toutes les chances de réussir. Parce que prendre des jeunes en disant oh, bah, notre section, je vais dire n'importe quoi, mais de grec ancien, d'ailleurs, il n'y a pas tellement de pression et de foule pour rentrer en grec ancien. Enfin, donc, il nous faut beaucoup d'étudiants, sinon on va perdre des postes et on va perdre des crédits. Ce que j'ai entendu pendant des années quand j'étais président d'université, c'est absurde. Il faut développer des formations qui permettent aux jeunes de s'insérer dans la vie active. C'est la seule chose. On peut pas. Bien sûr que l'université a un devoir de recherche et de maintenir le savoir, la création du savoir dans tous les domaines, y compris des domaines qui n'ont rien à voir avec la vie professionnelle. Mais on ne peut pas laisser s'engager des foules d'étudiants dans des secteurs comme la sociologie, par exemple, hein. Et je n'ai rien contre la sociologie, qui est une discipline magnifique et indispensable à l'humanité, au savoir que nécessaire, mais on ne peut pas laisser s'engager des dizaines de milliers d'étudiants dans les formations de sociologie pour lesquelles on sait qu'il n'y a pas de débouchés. Et puis alors, le dernier point, il faut développer énormément toutes les formations qui sont liées justement à l'emploi, et l'apprentissage est en France particulièrement peu développé par rapport à beaucoup de nos voisins, surtout les voisins de l'Est et du Nord, c'est-à-dire qu'en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, surtout en Scandinavie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, l'apprentissage est très développé. La formation en alternance est très très développée. Et on sait que la formation en alternance procure des débouchés professionnels, c'est la meilleure lutte contre le chômage. D'ailleurs, on voit bien que les jeunes qui passent des bacs pro ou des bacs technologiques, qui sont ensuite dans des BTS s'ils veulent poursuivre dans l'enseignement supérieur ou dans des IUT, trouvent tous un débouché à la sortie. Ce n'est pas le cas de ceux qui sortent de formation générale, pour lesquels il n'y a pas beaucoup de débouchés. Hein. Et malheureusement, encore une fois, dans les formations littéraires, on garde les jeunes très longtemps, parce que beaucoup d'enseignants sont contents d'avoir des étudiants, par exemple des thésards. Il y a trop de laxisme dans le dépôt des sujets de thèse et dans l'obtention des doctorats. Donc un certain nombre de jeunes vont jusqu'au doctorat, et le doctorat c'est à 29, 30 ans, 31 ans, et se retrouvent au chômage après. C'est un crève-cœur d'avoir laissé des gens suivre des études jusqu'à un âge aussi avancé pour qu'ensuite ils s'inscrivent au chômage, ou qu'ils trouvent un emploi totalement dévalorisé par rapport à la formation qu'ils ont suivie. Donc je pense que l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur ont besoin de nouveau d'exigences. L'exigence n'est pas du tout injuste, c'est même le seul moyen, encore une fois, de lutter contre les inégalités sociales, c'est par l'exigence. La Troisième République a appris à lire et à écrire à tous les Français, beaucoup de petits Français qui ont appris dans les années 1870, 80, 90, avaient des parents qui ne savaient ni lire ni écrire, ou qui savaient écrire trois mots. Donc la Troisième République, en apprenant l'imparfait des subjonctifs aux petits Français enfants d'illettrés, a été un extraordinaire moyen d'établir l'égalité des chances. Et ça, on est en train de le perdre, malheureusement, par démagogie, par pure idéologie.
Alors, vous avez prononcé les mots d'alternance et d'apprentissage. Ça implique aussi qu'au-delà d'une réforme des structures, il y a un engagement dynamique du monde de l'entreprise et des employeurs.
Évidemment.
Comment ressentez-vous leur motivation en matière ?
Il y a des secteurs dans lesquels ça va de soi. Bon, je parlais de l'hôtellerie et de la restauration, qui sont des secteurs dans lesquels l'apprentissage est très très développé et avec beaucoup de succès. Et tout le monde s'en félicite, aussi bien les employeurs que les étudiants. Dans tout ce qui est métier manuel, l'apprentissage est très très développé. Dans les métiers de bouche, dans beaucoup de métiers du commerce aussi, l'apprentissage est très développé. Dans les métiers juridiques aussi, c'est assez développé. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, beaucoup d'efforts à faire pour développer cet apprentissage. Les entreprises, enfin, y compris les syndicats de MEDEF ou la CGPME ou d'autres syndicats d'employeurs, n'insistent pas assez, de mon point de vue, sur l'importance de l'apprentissage. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de diminuer le taux de chômage. Mais évidemment, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question de tout à l'heure, évidemment, il y a le problème que les entreprises ne peuvent former des gens contribuer à former des gens. Elles ne le font pas seules, elles le font avec des formations, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Donc il y a une partie qui a lieu dans des établissements en classe avec des cours, et une partie qui a lieu sur le terrain dans une entreprise, où là on acquiert les gestes, les savoir-faire du métier pour lequel on se forme. Mais ça demande des efforts de la part des entreprises et aussi de la part de la société, parce que ce n'est pas très, très bien vu. L'apprentissage, alternance, c'est un tout petit peu dévalorisé dans l'esprit français. Mais c'est plus un fait culturel qu'un fait réel. Parce que pour ceux qui sont passés par ces formations en alternance, ils savent très bien que les résultats sont excellents. Vous avez un grand établissement d'enseignement supérieur qui fonctionne comme ça et qui est formidable, qui s'appelle le CNAM, hein, les arts et métiers, le Conservatoire national des arts et métiers, qui forme beaucoup de gens, alors qui ont déjà un métier, mais qui les forme en alternance, à progresser dans leur métier, à créer leur entreprise, à éventuellement à se reconvertir, à changer de métier, parce que là encore, quand on est adulte, qu'on a un métier, qu'on veut en changer, ben, il faut se former, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, s'il n'y a pas suffisamment de formation de ce type en alternance, on n'y arrivera pas. Et le taux de chômage ne va pas diminuer. On était dans une phase de diminution sensible du chômage ces derniers mois, mais évidemment, avec la crise du coronavirus, il va y avoir une explosion dans les mois qui viennent. Elle a lieu déjà, cette explosion. Mais donc, il faudra faire encore plus d'efforts, justement, dans la formation, parce qu'il va y avoir de nouveaux métiers à apprendre. Et pour ça, il faut être formé.
J'ai le sentiment, en vous écoutant, que finalement, la suppression du baccalauréat, ce serait, non pas l'arbre qui cache la forêt, mais le début d'une véritable révolution culturelle, finalement. C'est,
oui, je pense
c'est
que...
C'est le début d'un processus de longue haleine.
Oui, mais encore une fois, tout à l'heure, j'ai pris l'image de l'autruche. Tous les Français sont un peu autruches, mais dans l'éducation nationale, on l'est beaucoup. Et auprès d'un certain nombre de gens qui souvent sont des gens qui déploient beaucoup d'énergie, qui sont pleins de bonne volonté, pleins d'idées généreuses, mais qui ne veulent pas voir que la situation telle qu'elle est. Malheureusement, l'éducation nationale ne fait plus tout à fait assez bien son travail. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de chômage des jeunes. On n'est pas les seuls dans le monde, hein. Les pays d'Europe du Sud nous ressemblent davantage que ceux d'Europe du Nord. Mais essayons d'imiter, l'Europe doit servir à ça. Regardons ce qui marche bien ailleurs, regardons dans l'assiette du voisin et essayons d'imiter cela. Moi, j'ai le privilège de fréquenter depuis 40 ans le Japon et plusieurs fois par an. Je vois bien que ce genre de sujet ne pose pas de problème. L'apprentissage est très, très développé au Japon. Et la hiérarchie des formations dans le secondaire et dans le supérieur est très forte, acceptée par tout le monde. Donc, la sélection-orientation, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Or, en France, pour des raisons idéologiques, ça pose problème. Ce mot sélection donne des frissons à un certain nombre de nos compatriotes. Et ils ont tort, parce que elle existe. Donc autant en tirer le meilleur parti, autant savoir comment elle fonctionne et clarifier la situation. Il faut au contraire en parler de la manière la plus ouverte possible, plutôt que de dire non, ça n'existe pas, c'est pas beau la sélection, etc. Elle existe. Hein, vous voyez bien, j'ai le privilège d'habiter au quartier latin. Je vois dans toutes les agences immobilières sur du quartier, tout ce qui est à vendre, sectorisation Henri IV. Donc, ça veut dire quoi, sectorisation Henri IV ? C'est-à-dire que si on habite dans ce quartier, on a le droit d'inscrire ses enfants au collège Henri IV. Et si on est au collège Henri IV, on a de bonnes chances, on a plus de chances de passer au lycée Henri IV. Et si on est au lycée Henri IV, plus de chances de passer dans une bonne prépa. Donc, la sélection, elle est ouverte. Tout le monde sait qu'elle existe. Les grandes écoles, ce sont des grandes écoles publiques. Quand on est polytechnicien ou normalien, on est payé par l'État même pour faire des études. Mais pour y rentrer, il y a une sacrée sélection. Donc, ne nous leurrons pas, enfin, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la sélection existe. Mais essayons qu'elle soit la plus juste possible, la plus proche des réalités, et qu'elle permette, en particulier à ceux qui sont issus de milieux défavorisés, d'accéder aux meilleures formations possibles, et aux études longues et à des postes de cadre dans la société. Mais ce n'est pas, c'est pas donné d'avance à tout le monde. Ça se, obtenir un poste de responsabilité dans la société avec un bon salaire, ou un salaire plus élevé que la moyenne, c'est beaucoup de travail et d'exigence. Et personne ne peut penser, parce que ça n'a pas marché, ça a été essayé pendant des dizaines d'années dans plein de pays, personne ne peut penser que supprimer la hiérarchie sociale, la hiérarchie des salaires, ce serait une bonne réforme, parce que l'égalité, c'est formidable. Ben non, ça ne marche pas non plus. Et on a bien vu à quel drame ça menait des pays comme l'URSS ou la Chine de Mao. Donc il faut accepter que cette hiérarchie existe, mais pour qu'elle ne soit pas injuste, il faut pousser tout le monde à l'excellence. Et ça, c'est le rôle de l'enseignement primaire, de l'enseignement des collèges et des lycées, et bien entendu des établissements d'enseignement supérieur. Il faut que chacun soit invité et aidé à donner le meilleur de lui-même.
Oui, il s'agit donc bien d'une révolution culturelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous livrer une forme de pronostic ? Est-ce que vous pensez que cette occasion offerte, en quelque sorte, par la crise sanitaire actuelle peut être saisie ?
Ah ben écoutez, moi je me suis exprimé ces dernières semaines sur ce sujet beaucoup. Il faut saisir l'occasion. Hein. Je pense que le gouvernement a une forte responsabilité. il faut aussi que ce contrôle continu fasse ses preuves cette année. Il faut pas que au mois de septembre on se dise bon c'est scandaleux, ça n'a pas marché, vous voyez bien, il faut revenir au bac ancien. Il faut qu'il soit fait très correctement. Ça va être très difficile dans la mesure où dans certains établissements du secondaire les élèves ne reviendront pas. Donc les profs les auront quittés début mars et ils ne les reverront pas avant le mois de septembre, et il faut savoir s'ils ont le niveau ou pas du baccalauréat. Donc heureusement, il y a eu du travail qui s'est fait en télétravail, si je puis dire. Enfin, dans beaucoup d'établissements, les professeurs ont gardé le contact avec leurs élèves qui ont travaillé chez eux. Mais là, je trouve que l'injustice est grande parce qu'il y a des élèves d'abord qui ont une plus grande autonomie de travail et qui probablement ont exactement le même niveau au mois de juin, fin juin, que s'ils avaient été dans leur établissement en classe et suivi tous les cours en présentiel. Mais dans d'autres cas, il y a des élèves des plus jeunes ou qui sont moins autonomes. Et puis surtout, il y a des familles dans lesquelles on n'est pas habitué à aider les jeunes à travailler. Et quand vous avez des parents confinés qui eux-mêmes sont profs, qui eux-mêmes sont intellectuels, qui eux-mêmes ont une bonne formation, évidemment, on a entendu ça partout autour de nous. Il y a certains parents qui se sont découverts une vocation de professeurs qui ont aidé leurs enfants à continuer à travailler pendant le confinement. Mais dans d'autres familles, vous voyez bien, où il y a des parents qui n'ont jamais été à l'école ou pas beaucoup, dans des quartiers où l'entassement est grand, quand vous êtes avec plusieurs enfants dans un petit appartement bruyant, etc., c'est très difficile de se concentrer pour travailler. Donc là, évidemment, le confinement a créé une plus grande inégalité que celle qui existe entre les établissements scolaires. Parce qu'on peut toujours dire tel lycée est meilleur que d'autres, meilleur que tel autre, oui, probablement. Mais là, le confinement a aggravé ces inégalités, hein, très probablement. Donc ça va être difficile à la rentrée prochaine de rattraper tout cela. C'est en ça que le confinement a été une catastrophe.
C'était une expérience grandeur nature, mais dans des conditions dégradées. Finalement, dans la vie, la réussite d'acquisition de connaissances et de compétences, elle est certes en grande partie due à un système éducatif, à des règles, à des lois, à un encadrement. C'est aussi une question d'investissement personnel. Quel conseil, pour conclure cette émission, donneriez-vous à nos auditeurs les plus jeunes? Je suis certain que nombre d'entre eux auront particulièrement écouté cette émission-ci qui les concerne. Quel conseil leur donneriez-vous pour réussir leurs études dans la vie, quel que soit le système?
Travailler, c'est le fond qui manque le moins. Il faut revenir au laboureur et ses enfants de La Fontaine. La valeur travail est fondamentale et exigence. il faut être exigeant vis-à-vis de soi-même. Alors évidemment, les adultes, le rôle des adultes, et en particulier de l'ensemble des communautés éducatives de l'éducation nationale, est fondamental, les parents aussi. Mais il faut que les jeunes comprennent le plus tôt possible que plus ils travailleront intelligemment, et plus ils auront de chances de réussir, et donc de s'épanouir dans la vie. Parce que ce qui est important, c'est de se saisir de son propre destin, d'être responsable de ce que l'on va faire dans la vie, et de pouvoir faire coïncider la réalité avec ses rêves. Malheureusement, il y a souvent un trop grand hiatus entre ce que souhaitent ou ce que souhaiteraient les jeunes vaguement dans leurs rêves les plus fous et la réalité qui s'offre à eux. Donc, pour moi, c'est l'exigence, c'est le travail, parce que c'est une des valeurs majeures de l'équilibre social. Et encore une fois, en France, comme dans d'autres, ce que j'ai dit sur l'égalité, c'est un peu la même chose sur le travail. Le travail est un mot qui a mauvaise presse, qui est synonyme de souffrance. D'ailleurs, étymologiquement, c'est un instrument de torture, hein, le tripalium. Donc, il faut sortir de ça. Il faut s'en sortir. Le travail intelligent, c'est très épanouissant. Et donc, je dis à tous les jeunes, travaillez le mieux possible, faites des efforts, et ça paiera. Et vous ne le regretterez vraiment pas.
Eh bien, écoutez, merci de ces belles paroles qui peuvent être mises en pratique dès maintenant, pendant le confinement, et en étant d'autant plus maître du programme de lecture et de découverte, parce que finalement...
Oui, lisez, je dirais aux jeunes aussi, lisez Proust, lisez Balzac, lisez Zola, lisez les grands auteurs, lisez les auteurs contemporains, mais lisez le journal tous les jours, on peut l'avoir sur Internet facilement maintenant, donc cultivez-vous le plus largement possible, mais intelligemment, c'est pas le tout d'avoir la tête très pleine, mais il faut l'avoir bien faite.
Et écoutez, voilà. L'Académie, bien entendu.
Évidemment.
Merci. Merci Jean-Robert Pitt, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce confinement et merci de ces éclaircissements et de ces conseils pour un bon choix de vie.
Merci beaucoup et bonne fin de confinement.
À bientôt. Au revoir, monsieur.
À bientôt.
Thank you.